en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le philosophe Bertrand Saint-Sernin de l'Académie des sciences morales et politiques a prononcé une communication intitulée « L'actualité du Timée de Platon » devant ses confrères académiciens lors de la séance du 9 mai 2011. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance. Retrouvons Bertrand Saint-Sernin.
Le Timée est l'un des derniers dialogues de Platon qui a vécu entre 428 et 348. Il est court, 75 pages, contient un résumé de la République suivi du mythe de l'Atlantide, 10 pages, et ensuite deux autres parties de taille à peu près égale, une cosmologie qui fait 34 pages et une anthropologie qui fait 31 pages. Il a inspiré pendant 9 siècles la philosophie antique, non seulement l'école de Platon, mais aussi les autres écoles philosophiques, jusqu'à leur fermeture en 529. Il est lu de près par les pères grecs, notamment par Basile de Césarée et Grégoire de Nice. On dit même qu'il aurait été une des inspirations du dogme de la Trinité. Il a été partiellement traduit en latin au 5e ou début du 6e siècle par Chalcidius et commenté au Moyen-Âge par les philosophes latins, citons l'école de Chartres, Abélard, mais aussi au début du 19e siècle par Schelling, il y a un commentaire du Timée. Même s'il n'en existe pas ou s'il n'en subsiste plus de traduction arabe complète, il est également cité par les philosophes musulmans. Et sa partie physiologique et médicale, qui fait à peu près 30 pages, près de 40% du livre, a été lue de près par Galien, et à son tour, elle va inspirer la médecine du monde oriental et du monde latin. En 1929, Whitehead, mathématicien, élu en 1903 membre de la Royal Society, qui est un logicien et mathématicien, co-auteur avec Bertrand Russell du grand traité de logique mathématique du début du XXe siècle, les Principia Mathematica, déclare que la meilleure définition de la philosophie occidentale, c'est qu'elle constitue un ensemble de notes en bas de page ajoutées au dialogue de Platon. Et du Timée, Whitehead déclare qu'il constitue, avec le scolium que Newton ajoute à la deuxième édition de ses Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687, le plus grand texte cosmologique de cette même tradition. Kepler, le fondateur de l'astronomie moderne, est un lecteur du Timée, et quand Heisenberg fait son service militaire à Munich, il lit également le Timée sur le toit d'un immeuble, je ne sais pas pourquoi. Et le 14 mars dernier, dans le groupe de travail que dirige Bernard d'Espagna sur physique et philosophie, nous avons évoqué un problème traité par Platon dans le Timée. Est-ce qu'il y a un univers unique ou est-ce qu'il y a des mondes parallèles? Pourquoi cet extraordinaire succès ou longévité du texte? C'est étrange parce que quand on regarde le contenu, on s'aperçoit, on trouve beaucoup de propositions qui nous déconcertent, que nous trouvons presque absurdes. Mais il contient un trésor qui semble être inépuisable et qu'on pourrait appeler son programme. Comment résumer ce programme? C'est premièrement constituer une physique mathématique de l'univers. Deuxièmement, suggérer une explication causale des processus naturels. Et troisièmement, ce qui est peut-être le plus important, embrasser dans le même discours de style mathématique. Mathématique parce que Platon qualifie les mathématiques de theia techne, de technique divine. Dans le même discours, embrasser la cosmologie et une anthropologie qui comprendrait la médecine, la politique et les rapports de l'humanité avec la religion. tout en conduisant un programme cosmologique et anthropologique d'une grande audace, Platon montre en quoi son époque, et peut-être pour toujours, les conditions de sa réalisation font défaut. On trouve chez lui, en particulier dans le Timée, une critique de la raison dont l'inflexibilité égale et peut-être même dépasse celle que l'on trouve chez Kant. Le lecteur attentif du Timée ne trouve pas dans ce dialogue une quelconque théorie des idées qui dissocierait les modèles des choses avec la substance ou la chair des choses. Tout au contraire, en cosmologie comme en médecine, on voit un penseur qui se pose les questions suivantes : comment des êtres finis et fragiles peuvent-ils penser l'univers ? Jouent-ils leur destin en une seule partie, ou bien en plusieurs, à travers des réincarnations ? Comment se combine en eux une âme divine, ce que Platon appelle le daimon, le démon, et une âme mortelle, c'est-à-dire leur organisme, leur psychisme, leur moi ? Et surtout, peuvent-ils, sur ces questions décisives, tenir autre chose qu'un discours vraisemblable ? L'homme peut-il accéder à la vérité, et si oui, comment ? Dans une réflexion sur l'univers, en politique, en matière religieuse. Enfin, on trouve dans le Timée, et ça a frappé beaucoup de commentateurs, une mystique de la connaissance. Connaître, c'est voir l'univers comme Dieu le voit, puis retourner dans la caverne, pour l'expliquer aux hommes, si c'est possible. J'aborde le premier point, la naissance de la physique mathématique. Le Timée contient l'acte de naissance de la physique mathématique. Celle-ci n'est pas présentée du tout comme allant de soi, mais c'est le fruit d'un pari. Platon dit « je vote, Pséphone Titémai, pour elle ». Qu'est-ce que prendre parti pour la physique mathématique au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ ? Alors, il faut d'abord se représenter l'entourage de Platon. On y trouve les grands mathématiciens de l'époque, qui auraient eu toutes les médailles Fields si la médaille Field avait existé. On discute des états et des transformations de la matière, de la représentation mathématique des processus naturels. On réfléchit sur la difficulté pour les politiques de passer de l'opinion ordinaire, toujours mensongère, à l'opinion vraie et de l'opinion vraie à la science. On traite des maladies du corps et de l'âme, de leur origine, de leur guérison possible. On se demande comment asseoir la législation et la politique sur des bases solides. Comment édifier la physique mathématique ? De quelle décision est-elle le résultat ? La réponse tient en quelques lignes qui énoncent une alternative. Ou bien il y a imbriqué dans le monde sensible des entités intemporelles que sont les nombres, les figures géométriques, les schémas de causalité. Ou bien il n'y a que ce qui se voit, se touche, se sent. Entre ces deux conjectures, il faut choisir. Et le choix ne peut pas être dicté par des considérations irréfutables. C'est un pari. Platon opte pour le premier membre de l'alternative et il précise l'intellection, le nous. Les philosophes arabes traduiront nous par akl, qui représente le lien qu'on met aux jambes antérieures des chameaux pour les faire baraquer. C'est le desmos, le lien. Platon dit « l'intellection naît en nous par l'enseignement scientifique, l'opinion droite par le moyen de la persuasion, l'une repose sur la démonstration vraie, l'autre ne comporte pas de démonstration. L'une est inébranlable face à la persuasion, l'autre peut être modifiée par elle. Pour que la physique mathématique soit possible, il faut que l'univers, et ça c'est un point très important, soit autosuffisant. Autocrates, dit Platon, et il a une formule tout à fait étonnante, il dit « rien n'en pouvait sortir, rien n'y pouvait entrer, puisqu'en dehors de lui, il n'y avait rien, En effet, c'est le monde lui-même qui se donne sa propre nourriture par sa propre destruction. 33c. Le Timée développe les conséquences du choix en faveur de la physique mathématique. Et le dialogue expose aussi les raisons pour lesquelles nous pouvons douter que ce choix, que ce programme soit réalisable. Platon, d'abord, ne distingue pas, comme nous avons tendance à le faire, entre science dure et science molle. Pour lui, si l'anthropologie doit devenir une science, elle doit s'imprégner de mathématiques. Si elle n'y arrive pas, ça restera du domaine de l'opinion. La raison ontologique, c'est que les êtres vivants sont constitués à partir d'éléments qui proviennent de l'univers et qui y retournent après leur mort. Donc, il y a une sorte d'existence temporaire d'êtres complexes, vivants, mais finalement, ils retournent à autre chose. Alors, pourquoi ce programme a-t-il été robuste ? Pourquoi a-t-il résisté pendant plus de deux millénaires, alors que la science, vous le rappeliez, Monsieur le Président, depuis l'Antiquité grecque, a connu une histoire complexe et mouvementée ? Pour élucider cette énigme, on peut considérer la fondation de l'astronomie moderne par Kepler. Kepler illustre en effet de façon exemplaire l'influence qu'exerce le Timée sur la science. Il va prouver que les trois dogmes de la cosmologie de Platon sont faux. Premier dogme, c'est le mouvement circulaire des astres. Kepler va montrer que c'est faux, alors que Galilée va garder le mouvement circulaire des planètes. Il va montrer aussi que le dogme de leur vitesse de rotation uniforme est faux. Et troisièmement, que les astres ne sont pas des dieux. Mais tout en prouvant que ces trois dogmes sont faux, il va dire qu'il y a quand même un élément qui est très important, c'est que les mathématiques ne nous présentent pas des manières subjectives de regarder le réel, elles nous instruisent sur la constitution effective de l'univers. Et je vais vous citer un passage qui se trouve à la dernière page de la préface au lecteur de la deuxième édition du Mysterium Cosmographicum, qui est une œuvre de Kepler, datant la deuxième édition de 1621, où est énoncée la troisième loi de la gravitation des planètes autour du Soleil. Kepler écrit « Les idées des quantités sont et étaient en Dieu de toute éternité. Elles sont Dieu lui-même. Elles sont donc présentes aussi comme archétypes dans tous les esprits créés à la ressemblance de Dieu. » Il rappelle le livre de la Genèse. Sur ce point s'accordent les philosophes païens et les docteurs de l'Église. Et deux ans plus tard, Galilée, dans le Saggiatore, l'essayeur, va dire, tout le monde connaît cette phrase, la philosophie est écrite dans cet immense livre que tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre que si l'on s'applique d'abord à en comprendre la langue et à en connaître les caractères, il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, etc. Alors, ce qui est très important dans le programme de Platon, c'est l'idée que l'intelligence humaine, quoique limitée, peut, au prix d'une conversion intellectuelle et spirituelle, s'aligner sur le patron de l'intelligence divine. C'est un thème que le christianisme reprendra. Si bien que les théories construites par l'homme sont susceptibles d'être vraies. Le pari du réalisme n'est pas perdu d'avance. La connaissance vraie ou parfaite va demander une fusion de l'intelligence et de la perception, comme il est dit à la fin des lois dans le livre 12, 961c. Alors, l'affirmation d'une analogie de structure entre la pensée humaine et la pensée divine se trouve aussi dans la tradition judaïque et chrétienne, dans le livre de la Genèse. Les pères cappadociens, notamment Basile de Césarée, dans les homélies sur l'hexaéméron, c'est-à-dire sur les six premiers jours de la création, qui ont été écrits vers 370, en tire la conséquence suivante: la puissance créatrice de Dieu s'exprime par un commandement. Ce commandement devient la nature elle-même, et la raison industrieuse de Dieu, ce que Basile de Césarée appelle le logos en technos de Dieu, est accessible à la raison humaine. Alors, le Timée pose un problème qui est toujours débattu aujourd'hui. Est-ce que les sciences peuvent représenter fidèlement les processus causaux, les processus naturels à l'œuvre dans le monde réel, ou bien est-ce qu'elles peuvent seulement tenter, c'est déjà beaucoup, d'unifier les lois de la nature? Dans le premier cas, le réalisme est légitime, et dans le deuxième cas, c'est plutôt le positivisme qui est légitime. Et effectivement, on trouve, dès le début de la science moderne, enfin disons en gros dès la fin du XVIIe siècle, ces deux conceptions des sciences de la nature. La tendance réaliste pense que la science peut s'accomplir dans une philosophie de la nature. La conception positiviste juge illusoire la philosophie de la nature et fait dépendre la valeur des théories de leur cohérence logique. Alors, Cournot et Whitehead, Cournot au XIXe siècle, Whitehead au XXe siècle, sont favorables au réalisme. Auguste Comte, Ernst Mach, Duhem, etc., sont plutôt favorables au positivisme. Les premiers se réclament de Platon, les seconds de Kant, et l'opposition entre ces deux traditions reste actuelle, et elle a des effets décisifs sur la conception de l'action humaine sur la nature. Si l'on croit possible la compréhension et la maîtrise relative ou complète des processus naturels, on légitime du même coup les interventions humaines sur la nature, interventions qui apparaissent d'ailleurs dès l'âge néolithique, avec l'agriculture, l'élevage, plus récemment avec la médecine, et ajoutent les pères grecs avec le soin des âmes. La médecine des âmes aussi, c'est l'idée que la nature telle qu'elle est n'est pas parfaite et qu'il faut la corriger. Et Basile de Césarée dit carrément qu'il faut corriger les défectuosités de la nature, kakias. Donc la grande tradition du rationalisme chrétien ne sacralise pas la nature, ne dit pas « il ne faut pas y toucher », etc. Or, c'est un problème tout à fait actuel, en tout cas dans notre pays, avec la question, je prends l'exemple des OGM. J'ai succédé à vous, Monsieur le Président, dans le groupe de travail Académie Conseil économique et social, où j'ai pu vérifier ce que vous nous disiez sur son efficacité. On se heurte à un problème de sacralisation de la nature, c'est naturel, il ne faut pas y toucher, c'est sûrement parfait, en oubliant d'ailleurs que ce qu'on appelle naturel, c'est aussi d'injecter dans la nature des produits chimiques à haute dose. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, voilà pour la partie cosmologique, celle qui a été traduite en latin. Curieusement, les latins ont bénéficié d'une traduction latine qui va jusqu'à la page 53, c'est-à-dire en gros la partie cosmologique du Timée. Alors l'anthropologie est très importante parce que Platon soutient l'idée que si on veut avoir une vision scientifique de la réalité, on ne peut pas faire un clivage entre les sciences de la nature d'un côté, les sciences que nous appelons morales et politiques de l'autre. Ça n'est pas possible. Mais c'est très difficile parce que les êtres humains sont faits de deux pièces. Ils ont, dit Platon, deux âmes, l'une divine, qui est pour chacun son daimon, son génie propre, et l'autre mortel, le corps et le psychisme, qui est assujetti aux passions et constamment tributaire du monde extérieur. Cet état de choses a deux conséquences majeures. Première conséquence, on ne peut pas disjoindre la législation de la cosmologie ou séparer les sciences morales et politiques des sciences de la nature. L'étude du monde vivant, végétal et animal est nécessaire à celui qui réfléchit à l'ordre humain, au législateur qui agit sur la vie de la cité. Et deuxième conséquence, sortir du règne de l'opinion ordinaire pour acquérir des opinions vraies n'est pas facile, et transmuter des opinions vraies en connaissances scientifiques est encore plus difficile. Et enfin, faire passer dans l'opinion publique le savoir scientifique est extrêmement délicat. En effet, en raison de leur constitution, les hommes n'entendent pas facilement la voix de la raison. C'est pourquoi il y a un rapport étroit entre médecine et politique. Médecine et politique ont des liens étroits parce qu'il est aussi difficile de faire accepter à un patient un traitement efficace, qui est en général douloureux, que de faire adhérer les citoyens à des réformes qui, en général, sont aussi pénibles. La pathologie fait donc partie de l'anthropologie et fait partie de la politique. Pour sortir de la maladie, il n'existe qu'un seul remède, ça c'est la grande conception qui n'est pas propre à Platon mais qui domine au fond l'Antiquité, c'est de rétablir en soi un ordre connaturel à celui de l'univers. Lorsque de nouveau, je cite le Timée, reprenant le calme, les révolutions de l'âme suivent leur voie propre et s'y affermissent davantage à mesure que le temps passe, ces révolutions se stabilisent. Et alors, Platon ajoute, si de plus il vient s'y ajouter quelques bonnes méthodes d'éducation, le sujet redevient normal. Redevient normal, il faut comprendre que, pour Platon, la découverte que nous sommes mortels crée une sorte d'expérience de folie. C'est quelque chose de tellement insupportable que vivre ou s'accoutumer à la conjonction de la partie divine et de la partie mortelle de l'âme est une expérience difficile. Alors, à la fin du Timée, Platon montre que l'organisme a bien des façons de se dérégler. Il attribue d'ailleurs à toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, des causes organiques et exonère ceux qui en souffrent d'une responsabilité. Alors, il retient deux causes principales de la pathologie humaine, une disposition fâcheuse du corps, des causes organiques, et un environnement malencontreux, surtout dans la petite enfance. Alors, le Timée examine les pathologies mentales. J'en dis simplement un mot parce que c'est important dans la mesure où c'est pas simplement du domaine de la médecine, mais aussi pour Platon de la politique. Les deux pathologies mentales qu'il examine sont le délire et la débilité mentale. Alors le délire est important parce que nous n'y échappons pas entièrement, même quand nous sommes normaux, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous empêcher de croire. Nous croyons aux choses les plus diverses ou les plus contradictoires, mais l'état d'incroyance est un état quasiment impossible pour l'homme. Or, cet état de croyance est toujours un état de semi-altération parce que ce que nous croyons nous apparaît sous la forme que Platon appelle des eidola kai phantasmata. Ce sont à la fois des images et aussi des sortes de fantaisies mais prégnantes qui touchent l'émotion, si vous voulez. Alors, cela étant, la politique est évidemment concernée de très près par ces problèmes-là. Platon dit « Quand se combine une fragilité interne de l'individu à des conditions sociales défavorables, ces deux causes, psychologiques et sociales, prennent une forme politique. Agissant de concert, elles nous rendent mauvais malgré nous. Et lorsque de tels maux surviennent, dit Platon, Il faut toujours en accuser les parents plutôt que les enfants, les éducateurs plutôt que leurs élèves. 87b. Et Platon conclut, dans la mesure où on le peut, il faut s'efforcer par l'éducation, l'exercice, l'acquisition de connaissances appropriées, de fuir la méchanceté et d'atteindre la vertu, son contraire. Bon. Alors, bien entendu, Platon va montrer tout de suite que c'est quasiment impossible. Alors, j'arrive au troisième point, la critique de la raison. Les politiques sont confrontés au problème de l'opinion. Quelle force génère les opinions ? Comment peut-on amener les citoyens à substituer des opinions vraies à des opinions fausses ? Comment transformer des opinions vraies en un savoir cohérent, scientifique ? Platon se rend compte qu'on se laisse plus facilement prendre par des impressions et des émotions que par l'argumentation logique. C'est au fond le care. Et alors, lui appelle ça, d'un autre mot, il appelle ça la théatrocratie. Il y a un côté de jeu, de scène, qu'on ne peut pas éviter. Alors, pour en sortir, il faudrait atteindre ce que Platon, à la fin des lois, appelle la connaissance parfaite, et qu'il définit, c'est celle dont le politique aurait besoin pour piloter la cité, et il dit qu'elle implique le mélange, crassis, ou même la fusion de l'intellection et de la perception. Contrairement à ce que les vulgarisateurs de la théorie des idées laissent entendre, Platon n'est pas dualiste. Sa réflexion médicale, politique, anthropologique porte sur la soudure ou sur la dissociation du corps et de l'âme. Bref, médecine et politique doivent faire en sorte que les individus et les collectivités, au lieu d'être soumis à des rythmes désordonnés, se règlent sur les rythmes de l'univers. Bon, ça c'est la conception classique de l'Antiquité. Ce qui nous intéresse peut-être davantage, c'est le passage de l'opinion ordinaire à l'opinion vraie et de l'opinion vraie à la science. Alors, nous naissons dans l'opinion, c'est-à-dire, selon Simone Weil dans l'Enracinement, dans le mensonge. Platon en donne deux raisons. Quand nous sommes enfants, nous dépendons des croyances que nous communiquent nos parents et nos maîtres, le milieu dans lequel nous vivons, nous sommes nés. Et plus profondément, le fonctionnement du corps et du psychisme sont pour une large part étrangers à la raison. Devenir capable d'entendre la voix de la raison exige donc un entraînement aussi difficile qu'un traitement médical efficace. Et c'est en plus astreignant et le plus souvent douloureux. Ce traitement, véritable conversion intellectuelle et spirituelle, comporte trois étapes. Première étape, passer de l'opinion ordinaire à l'opinion vraie. Deuxième étape, passer de l'opinion vraie à la science. Troisième étape, celle qui est la plus importante pour le politique, retourner au milieu des hommes dans la caverne de l'opinion et des passions. Alors, le passage de l'opinion ordinaire à l'opinion vraie, pour Platon, c'est une action collective et il se traduit essentiellement par la maîtrise d'un métier. C'est au fond l'acquisition de comportements dont l'expérience des générations montre qu'ils sont efficaces. Platon ajoute, malheureusement, que le même individu est incapable de bien maîtriser deux métiers différents, ce qui a pour conséquence que dans une société, la complémentarité des métiers institue la division du travail, ça c'est une chose positive, mais ça a un effet négatif, c'est que chacune des registres des métiers ou des opinions vraies sont comme les statues de Dédale, dit le Ménon, page 97, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à partir chacune de son côté, et ce que Platon dit à son époque des métiers est vrai des disciplines scientifiques aujourd'hui où il est très difficile de faire se rejoindre des spécialistes de différentes disciplines. Alors, pour l'action, l'opinion vraie présente les mêmes avantages que la science, mais du point de vue théorique, elle ne vaut pas la science, car, justement, il y a cette indépendance mutuelle des opinions vraies. Alors, qu'en est-il du passage de l'opinion vraie à la science ? Platon dit dans le Timée que pour qu'un tel passage s'effectue, il faut que soient surmontés des obstacles objectifs et des entraves subjectives. Les obstacles objectifs, c'est, alors, Monsieur d'Espagna comprendra très bien, Platon dit « Nous n'avons pas les moyens expérimentaux de connaître les processus naturels un par un. Nous ne les voyons pas, nous n'avons aucun moyen d'observation, nous les voyons en tas, en masse. Et comme nous n'avons pas cette possibilité de connaissance individuelle des transformations de la matière ou des corps sensibles, ce que nous en disons relève de l'opinion, mais ce n'est pas de la science. » Il n'y a pas de science de la nature qui puisse se constituer. Et il y a un deuxième obstacle, c'est que même si Dieu a essayé de faire en sorte que le monde soit aussi ordonné que possible, il y a quand même des niches de désordre, et notamment dans la condition humaine, il y a ce que Platon appelle la cause errante, planomene aitia, 48a. Comme l'incidence de cette dernière sur le cours des choses et sur les organismes vivants n'est pas mesurable avec précision, la physique mathématique a du mal à s'étendre au-delà de l'astronomie, et Timée est simplement, c'est le plus grand astronome de l'époque, c'est pour ça qu'on le charge de faire ce travail, mais Platon dit c'est très difficile d'aller au-delà de l'astronomie, c'est-à-dire que la physique mathématique a du mal à s'étendre au-delà de l'astronomie, elle ne pénètre pas la mécanique, la chimie et encore moins les affaires humaines. Et il faudra la domestication mathématique du hasard à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que ces obstacles commencent à être surmontés. Alors, il y a un texte très curieux dans le Timée où Platon dit « Nous qui sommes faits pour la plus grande part de rencontres fortuites, il est très difficile que nous ne parlions pas au hasard. » Et donc, je m'abrite derrière Platon tout de suite pour que vous excusiez les limites de mon propos. Alors, les obstacles internes, les entraves subjectives, c'est la difficulté que nous avons à nous affranchir du poids des images et des passions qui altèrent la liberté de jugement et la capacité de raisonner. En d'autres termes, les hommes ne sont pas spontanément enclins à cultiver la science. Elle peut leur demander, elle exige une conversion, et c'est la raison pour laquelle dans l'école platonicienne, et notamment chez les grands directeurs de cette école, je prends l'exemple de Proclus, on recommande avant un travail intellectuel la prière. Et on a la prière de Proclus. Alors la prière, ce n'est pas un acte tellement religieux, pas simplement, mais c'est un essai pour transformer sa vision du monde et pour se détacher de cette partie passionnée, imaginative et mortelle de l'âme qui vient altérer la connaissance que nous avons de l'univers et la pratique des mathématiques. Proclus lui-même, on a un théorème de Proclus sur les polygones réguliers. Bon. Alors, j'aborde le quatrième point de cet exposé. Platon privilégie la voie de la connaissance, aussi bien dans le domaine, bien entendu, de la science, mais aussi de la politique. Et Simone Weil dit de l'auteur du Timée, « Il est sorti de la caverne, il a regardé le soleil Et il est rentré dans la caverne, aussi ce monde sensible n'y apparaît plus comme une caverne. Autrement dit, l'issue de ce périple, les informations fournies par les sens, aident à discerner l'architecture de l'univers, sa constitution et son devenir. Et le cœur intellectuel et spirituel du Timée, c'est le privilège accordé à la voie de la connaissance qui va rester une constante dans l'école de Platon. Selon Platon, la raison n'a pas à se plier à des lois extérieures, y compris à des lois divines. En effet, étant souveraine et libre, c'est elle qui fait la loi. Et si les hommes étaient conduits par la raison, il n'y aurait pas besoin de loi. La raison n'est pas impersonnelle. Elle s'individue dans une âme et la dite âme dans un corps. Autrement dit, le logos, la raison, n'est pas désincarné. Il n'erre pas à la recherche d'un ancrage, l'image des ancres qui ont servi de titre. Un récent livre de notre confrère Rémi Brague se trouve dans Platon. Il y a deux fois l'image de l'ancre. Il y a une fois l'image du cordage qui peut relier le navire dans la tempête à un quai. Les cordages, c'est peismata. Et il y a l'image de l'ancre avec l'idée que si on pouvait jeter deux ancres, ça serait déjà mieux. Mais on n'y arrive pas tout à fait. Alors, la raison n'est pas impersonnelle, mais la chance pour que nous pensions et agissions rationnellement est faible. Nous sommes voués, presque inévitablement, à l'opinion fallacieuse, à l'idéologie obsédante, à des convictions butées. Les convictions butées, c'est ce que Platon appelle anoïa, c'est-à-dire c'est pas la privation d'esprit, mais c'est une sorte d'incapacité d'apprendre en fonction de l'expérience. Alors, on pourrait tirer de Platon, bien sûr, un nihilisme, puisqu'il décrit par le menu les processus de sécession des individus et des cités, des processus qui engendrent les guerres. Il ne faut pas oublier que Platon, jeune homme, a connu la guerre du Péloponnèse et le désastre de la fameuse expédition de Sicile, qui est tout à fait extraordinaire. Le récit qu'en donne Thucydide, notamment au livre 6, le général en chef est Nicias. Et Nicias est opposé à ce débarquement en Sicile. Et alors, il multiplie dans un discours toutes les objections et tout ça. Et la réaction des Athéniens est de dire, avec un chef aussi intelligent, aussi prudent, nous avons toutes les chances de gagner, et hop, ils partent, et ils suivent Alcibiade. Alors, Platon dit une chose très curieuse, hein, il revient sur un thème, c'est que la vertu d'espérance est nécessaire à la fois en politique, mais aussi en science. Car selon Platon, se couper de l'espérance, même dans les situations désespérées, c'est se couper de la vérité. Alors, quelle est l'espérance platonicienne? En quoi se distingue-t-elle de l'espérance chrétienne? Chez Platon, l'accès à la rationalité est un processus intersubjectif fondé sur le dialogue. C'est vrai dans la relation entre le médecin et le malade, c'est également vrai du rapport politique entre les citoyens et leurs dirigeants, rien ne réussit sans confiance. En quoi la confiance consiste-t-elle? Pourquoi, si le médecin et le réformateur politique échouent à établir une relation de confiance, les meilleurs traitements ou les réformes les plus justes risquent-elles de perdre leur efficacité? Ces questions gardent bien sûr leur importance aujourd'hui, où des hommes qui n'ont ni la même langue, ni les mêmes croyances, ni les mêmes institutions, doivent se parler, se comprendre et partager le même destin. Alors Platon, d'ailleurs, dans les lois, examine ce cas. Et il dit qu'il y a deux façons de former les cités. On peut soit faire comme les abeilles quand elles créent une nouvelle ruche, où on a une population nouvelle qui a la même langue, les mêmes institutions, ou bien avec des immigrants qui viennent de partout. Et alors Platon dit, dans le second cas, c'est assez facile de leur donner des lois nouvelles. Ils acceptent bien de nouvelles lois, une nouvelle constitution. Mais il dit, ce qui est très difficile, c'est de les faire respirer ensemble, sumpneusai, de les faire aller du même souffle, comme un attelage de chevaux qui marche du même pas. Alors, en conclusion, on peut dire que Platon a été très vite assimilé par la pensée chrétienne, notamment par les pères grecs, également au Moyen-Âge. Ça a valu d'ailleurs d'autres des malheurs supplémentaires au pauvre Abélard, parce qu'il avait eu un étudiant qui est interrogé à la faculté de théologie de Paris sur le mystère de la Trinité. Et alors, l'étudiant, brave, répond « Mais ce n'est pas un mystère. Maître Abélard nous a expliqué, à partir du Timée, pourquoi il est nécessaire qu'il y ait trois personnes de la Trinité, et ça n'empêche pas qu'il y ait l'unité de Dieu. » Alors, Abélard s'est fait taper sur les doigts, et on a la rétractation d'Abélard. On l'a encore. Donc, la tâche d'arriver à une vie menée par la raison ne peut pas être une tâche individuelle. Et c'est une chose, d'ailleurs, que les penseurs chrétiens reprendront. Par exemple, Tertullien, qui a été un grand avocat dans la deuxième moitié du IIe siècle et qui a mis son talent d'avocat au service du christianisme, disait « Dieu a créé l'homme de telle façon que chaque individu a besoin des autres. » Et alors, quel est cet idéal platonicien et comment expliquer cette sorte de survie du Timée ? Je crois que cela tient essentiellement à trois éléments. D'une part, l'idée de la physique mathématique. Deuxièmement, l'idée d'une sorte d'unité formelle d'un discours scientifique s'il peut se former, et donc du refus de la séparation entre les sciences de la nature et l'anthropologie. Et la troisième idée, c'est que la connaissance parfaite, celle qui serait utile pour diriger des cités et les piloter, ça n'est pas une connaissance qui séparerait ce qui relève de l'intellect et ce qui relève de la pratique et de la perception sensible, mais il faudrait qu'une telle fusion puisse être réalisée. Alors, il est bien évident que dans une religion où l'incarnation est un dogme, cette idée de la nécessité de ne pas séparer l'âme et le corps est apparue comme une chose importante.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de l'académicien Bertrand Saint-Cernin intitulée « L'actualité du Timée » et prononcée en séance le 9 mai 2011 à l'Académie des sciences morales et politiques.